France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence avec ces mesures de sécurité prises en France face à l'aggravation de la contamination au coronavirus en Italie. 70 hôpitaux supplémentaires en France sont activés pour faire face à une éventuelle propagation de ce virus. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'annonçait hier soir, tout en assurant que la situation n'a pour l'instant pas évolué dans le pays. En Italie donc, une troisième personne est morte à cause du coronavirus. 11 villes du Nord ont été placées en quarantaine ce week-end. Plusieurs manifestations culturelles et sportives sont d'ailleurs annulées. La Scala de Milan est notamment fermée, le carnaval de Venise est annulé. L'angoisse monte également en Corée du Sud, où le pays vient d'annoncer 2 nouveaux décès et 161 nouvelles contaminations. En Chine, par ailleurs, le bilan est maintenant de plus de 2590 morts, plus de 777 000 contaminés. L'armée israélienne revendique une série de frappes aériennes en Syrie cette nuit. Elle visait des positions du djihad islamique près de Damas. Il s'agirait en fait de représailles après des heurts un peu plus tôt dans la journée hier dans la bande de Gaza. Des roquettes du djihad islamique avaient été tirées depuis l'enclave palestinienne. Notons aussi qu'en Iran, les conservateurs crient victoire après les législatives. Ils remporteraient la plus grande partie des sièges à l'Assemblée. Le scrutin a toutefois été marqué par une très forte abstention. 58% des Iraniens n'ont pas voté, du jamais vu depuis la création de la République islamique en 1979. Au Togo, en revanche, les résultats des élections sont plus clairs. Faure Gnassingbé a été réélu à la présidence avec 72% des voix. Il obtiendra ainsi un quatrième mandat consécutif à la tête du plus petit pays d'Afrique de l'Ouest. Enfin, nous avons appris la mort d'Hervé Bourges, figure des médias français. Ancien patron des chaînes de télévision TF1, France 2, France 3 et de RFI, il avait notamment été à la tête du CSA entre 1995 et 2001. Il était aussi fervent défenseur de la francophonie. Hervé Bourges avait 86 ans.
Un roi sans divertissement sur France Culture. Roman policier, récit psychologique, plongeant dans les zones d'ombre de l'âme humaine, l'ennui existentiel, la fascination exercée par le mal, un jeu de piste sur fond de neige éclaboussé de sang.
On ne sait pas exactement la date, mais enfin 15, 16 ou 17, c'est un de ces 3 jours-là, le soir, qu'on ne trouva plus Marie Chazotte.
Qui aura le dernier mot ? Un roi sans divertissement de Jean Giono, à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr. France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs » sur le thème « 2020, la société face au conflit ». Le goût du clash a-t-il remplacé le débat public ? Peut-on faire une philosophie du conflit ? La lutte des classes est-elle toujours d'actualité ? 4 débats et un grand entretien portés par les producteurs de France Culture. En partenariat avec La Croix et le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris, samedi 29 février, dès 10h, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Réservation obligatoire, maisondelaradio.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Tofik Hakem.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio ou en podcast. Et nous sommes en compagnie de Malik Zidi ce matin. Le comédien vient de publier un premier roman où il revient sur son enfance, sa scolarité très mal vécue, c'est le moins que l'on puisse dire, son apprentissage de la vie en dehors et souvent en opposition à toute forme d'autorité, lui qui a quitté le domicile familial à l'âge de 18 ans, sans bac en poche et sans regret. L'ambre du soir de Malik Zidi est publié par Anne Carrière.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Malik Zidi.
Bonjour.
Vous auriez pu intituler ce récit autobiographique « Mon enfance dans une pharmacie » en référence à la pharmacie que tenait votre mère ou encore « Les mémoires d'un cancre » puisqu'il est beaucoup question de votre scolarité problématique. Mais non, vous avez préféré ce titre poétique « L'ombre du soir ». Pourquoi ?
Parce que c'est pas un journal, c'est, j'ai essayé de faire un objet littéraire, et donc je me suis dit forte occasion autobiographique,
voilà.
Mais
ouais,
bien
merci.
Sûr, mais comme à chaque fois, même le dernier livre est autobiographique, hein, je pense. Et voilà, donc L'ombre du soir, ce titre m'a projeté dans cet univers, dans cet enfant évidemment qui me ressemble, mais qui est un petit peu aussi différent.
Il s'appelle pas Malik, il s'appelle Mehdi.
Non, il s'appelle Mehdi, et puis L'ombre du soir, c'est aussi parce que c'est une statue étrusque qui m'a toujours bouleversé, qu'on a trouvé dans un champ en Italie, et qui est un enfant filiforme en bronze, et qui est devenu un peu maintenant mon allié, mon ami. Et puis
donc.
Ouais. Voilà. Ça vient, tout ça est un grand mélange de souvenirs et d'amour pour les Étrusques aussi.
Et l'envie d'écrire ?
Oui, c'était une urgence là, c'est sûr, mais
une urgence.
Oui, enfin, je pense que la littérature ou une œuvre, on doit la faire avec urgence, ou alors on peut être aussi par loisir. Mais moi, là, c'était effectivement une urgence. C'est venu. J'ai eu la première phrase un matin en me levant. La première phrase du roman m'est sortie comme ça, et donc je l'ai déroulée jusqu'à en faire un livre. Ça a duré 4 ans, mais.
Avec l'envie de faire un livre, donc.
L'envie de plus écrire pour moi, mais écrire pour aussi pour être lu. Ce qui change un peu la donne.
C'est-à-dire que vous avez pris l'habitude d'écrire depuis un certain moment ?
J'ai toujours un peu griffonné, un peu écrit, un peu fait des poèmes, des chansons. J'ai toujours eu quelques bouquins dans les poches, même certains que je comprenais pas trop d'ailleurs, mais ça m'a un peu aidé à avancer dans la vie. Et là, effectivement, je me suis dit que j'allais essayer. Voilà.
Et c'est votre premier livre publié, Malik Zidi. Je rappelle que vous êtes né d'un père algérien, informaticien, et d'une mère bretonne, pharmacienne, originaire de Concarneau. Vous avez passé votre prime enfance en Algérie, mais très vite vous venez à Saint-Maur des Fossés. Vous quittez le domicile familial à l'âge de 18 ans pour vous installer à Paris. C'est l'âge de la débrouille et de l'amour. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 24 ans, vous intégrez les cours dramatiques de Véronique Nordet. Premier rôle en 1997, très remarqué, puisque vous êtes l'étudiant dans la pièce Fatima en France de Nora Boublil. On vous remarque, et ensuite commence votre carrière au cinéma, d'abord dans le court-métrage de Sébastien Lifshitz, Les Corses Verts, puis dans votre premier long-métrage, Place Vendôme de Nicole Garcia, où vous décrochez le rôle d'un petit tailleur de diamants juif polonais, et vous tournez avec la Catherine Deneuve. Il ne restait plus qu'à décrocher un premier rôle, ça viendra vite, ça aussi, Goutte d'eau sur Pierre Brûlante de François Ozon, aux côtés de Bernard Giraudot, d'après Fassi Bindler, qui va définitivement vous installer dans le rôle du meilleur espoir du cinéma français. D'ailleurs, au César, vous avez été nommé 4 fois dans cette catégorie, mais vous avez fini par l'obtenir.
Je suis un bel espoir.
Vous avez fini par l'obtenir en 2007 pour votre interprétation dans Les Amitiés Maléfiques d'Emmanuel Bourdieu. Et là, vous êtes dans le rôle d'un cagneux manipulé par un de ses camarades. C'est-à-dire qu'au cinéma, on vous a vu souvent dans le rôle d'étudiant brillant, alors que ce que vous racontez dans votre livre, c'est que franchement, les études, vous les avez royalement ratées.
Mais oui, mais elles m'ont rattrapé dans l'artistique, quoi. Effectivement, elles sont revenues me parler. Mais à chaque fois que j'avais un rôle, surtout au départ, effectivement, je jouais un étudiant ou alors un intello, et j'avais l'impression que c'était un coup du sort, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est la scolarité qui veut me dire quelque chose? Ou se venger, enfin je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était une belle ironie.
Alors s'il fallait parler de votre esprit rebelle, tout en étant un garçon gentil, hein, c'est pas le voyou qui fait 36 000 coups tordus, c'est que juste à l'école ça ne passe pas.
Non mais je dirais que c'est plutôt aussi l'école qui peut être rebelle contre un enfant, c'est pas forcément l'enfant qui se rebelle, c'est aussi les institutions qui sont parfois très violentes, très cruelles. Et puis le contexte familial, enfin tout peut être une rébellion contre l'enfant. Quand on parle d'un enfant rebelle ou d'un cancre, c'est aussi parfois son environnement qui est cancre. Donc pour vous dire qu'un enfant se débrouille comme il peut, il n'a pas tous les outils, et donc soit il s'en sort grâce à, enfin moi c'est ce que j'ai fait dans ma vie en tout cas, grâce à l'écriture et les arts et les dessins, la musique, ou soit il sombre, mais voilà.
Vous en voulez à vos profs, au système éducatif?
Moi,
à vos parents aussi ou...
Non, mais j'ai pas envie d'en vouloir. Hein. C'est des questions de hasard. Mais tout de même, je suis quand même tombé, j'ai pas eu trop de chance, je suis tombé dans des... Il y a pire, hein, évidemment qu'il y a pire. Hein. Mais je suis tombé dans des écoles un peu à l'ancienne, un peu à la Jules Ferry, où on nous tapait sur les doigts avec des règles en métal. Et puis je suis tombé avec des vieux profs en chaussettes rouges, sandales, qui étaient vraiment, vraiment, vraiment à l'ancienne. Donc, qui nous enfermaient dans les placards, etc. J'ai l'impression d'avoir vécu 1930, alors que c'était dans les années 80, quoi. Donc j'ai vécu tout ça avec en plus effectivement une pression familiale de l'autre côté. Donc il n'y avait pas beaucoup de refuges à part eh ben les cafés qui étaient devant le lycée ou le collège et puis l'amour évidemment, les premiers émois et puis les livres.
Mais le fait d'en parler aujourd'hui avec tout ce recul, c'est que ça vous a vraiment marqué pour ne pas utiliser le mot traumatisé.
Non, mais ça m'a marqué à vif. Pendant des années, je pouvais pas passer devant une école dans la rue. C'est-à-dire que je voyais une école ou un lycée, je faisais un détour. C'était, ça m'a vraiment brûlé, ouais, ouais, ouais.
Alors, raconter cette enfance dans une famille moyenne française, atypique bien sûr, comme toutes les familles françaises le sont, ouais. Une famille des années 80, père algérien informaticien, mère bretonne pharmacienne, je le rappelle, il y a des ressemblances avec la série autobiographique en BD de Riyad Sattouf, l'arabe du futur, même si pour vous, Malik Zeddi, votre double appartenance culturelle n'est pas le sujet, encore moins la cause de vos tourments d'enfants et d'adolescents.
Non,
parce que vous racontez aussi bien vos voyages exotiques à Annaba en Algérie ou dans la Bretagne profonde de votre mère.
Mais c'est tout de même une recherche d'identité. Et quand on est un enfant métis, c'est une joie et aussi une complication. C'est plusieurs choses mélangées. Quand on est aussi l'enfant du colonisé et du colon, enfin ancien, hein, ex évidemment, on ressent des choses.
C'est présent dans votre livre, mais c'est jamais mis en avant.
Bah, c'est un petit peu mis en avant quand je dis je sais plus qui je suis, je sais plus qui ils sont. L'Algérie, je l'évoque comme un paradis perdu, et en même temps, c'est aussi la douleur, c'est la perte de toutes ces émotions primitives, et puis c'est aussi la violence d'un. On va dire d'un patriarcat qui parfois peut blesser à vie. Donc, c'est plusieurs choses.
Et la Bretagne dans tout ça?
La Bretagne, elle est tellement énigmatique. Pour moi, elle était comme ça. C'était, mes grands-parents sont des paysans, dans les terres bretonnes, avec une sorte de brume constante. La Bretagne, ça fait un petit peu peur quand on est petit. Maintenant, je m'en rapproche de plus en plus.
Comment vous faites pour vous rapprocher de plus en plus?
Eh bien, physiquement, déjà, je m'en rapproche, parce que j'habite plus à Paris, j'habite au Havre.
Encore?
Ouais.
Vous n'arrêtez pas, en fait, compte de fuir un peu?
Fuir, enfin, je marche, en fait. Mm-hmm. Quelle est la différence? Je marche, et puis, bon, bah, je me plante des fois, mais en tout cas, j'avance, quoi.
En tant que comédien, vous avez prêté votre voix à des textes de littérature classique ou textes contemporains. Cette fois, Malik Zeddi, vous allez lire un extrait choisi par mes soins de votre roman « L'ombre du soir » édité par Anne Carrière.
Je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Je suis malade. Elle est à la pharmacie, ma mère. Mon père travaille au bureau dans son informatique américaine. Il est au 19e étage dans la tour Montparnasse. Couloir au fond, porte gauche et droite, ne pas ouvrir la deuxième, il y a de l'amiante. C'est la réussite. Même que des fois, il reçoit des coupes et des médailles directes de Cincinnati en accusé de réception pour avoir été un bon élément. Tout ça par colis postal urgent. Elles sont dorées à leur fin, les coupes. Du Minnesota ou de San Francisco, loin là-bas, où l'or est né, hors d'atteinte de mes marrons jetés. C'est comme s'il avait de très bonnes notes tout le temps. Que les directeurs d'école américaine l'aimaient fort. Faut dire qu'il sait y faire. Il parle l'américain parfait, travaille chaque seconde dans sa tête à de nouvelles stratégies, même quand il travaille pas. Nous, on le voit parce qu'il s'en prend toujours à nous, ses employés. Le pire, c'est le week-end, quand on a du temps libre. Son bureau lui manque, c'est pour ça. Il le recrée à la maison, dans toutes les pièces. J'ose pas y entrer. J'ai peur de tomber sur le patron, chaussons aux pieds. C'est pas normal de voir ça, je vous assure. Le patron en pyjama et son gros zizi d'adulte dessous. Burke. Il sourit pas souvent. Quand il rigole, c'est quand il se moque. Moi, je suis un stupide, un nul, un mal câblé, une vraie pourriture de collègue de bureau. Un de ceux qui ruinent l'entreprise par mes gardes. Une faillite que j'amène avec moi. La bourse Davis en cac plus rien. La clé sous la porte. On sera à la rue à cause de ma réponse de débile. Mon imbécilité. Ma mère collabore en proposant toujours de nouveaux tests, un peu plus insidieux, de dos, la main dans la soupe. C'est sa secrétaire de direction du management de la coordination des contrôles.
Un extrait de L'ombre du soir de Malik Zidi, lu par l'auteur. Oui, My Mind, les Pixies. Et si on écoute les Pixies sur France Culture de bon matin, c'est bien parce que Malik Zidi, notre invité, les cite en préambule de son premier roman, L'ombre du soir. Pourquoi d'ailleurs les Pixies?
Parce que je suis fou de ce groupe, parce que j'étais fou de ce groupe quand j'avais 15 ans, quand j'étais adolescent. J'avais un pote qui m'a fait découvrir les Pixies et depuis, ils m'ont jamais lâché. Et puis aussi, Where is My Mind, c'est où est mon esprit et où est-ce que je suis. Et ça a vraiment un rapport avec cet enfant aussi qui se cherche.
Avec cet enfant qui s'appelle Mehdi dans le livre, Malik Zidi. C'est votre frère, votre double littéraire, ou c'est vraiment un récit autobiographique?
Non, c'est un enfant que j'ai suivi, quoi. C'est un alter ego. Mais depuis que le livre est sorti, depuis que l'objet existe, c'est maintenant quelqu'un qui existe sans moi, donc... Voilà, c'est un ami lointain.
Lointain?
Bah, maintenant, oui. Ouais.
Parce que vous parlez de votre enfance, elle vous a accompagné cette enfance dans le sens où vous racontez que vous avez été perturbé durant votre scolarité, que ça a été un vrai traumatisme aussi bien à l'école qu'à la maison avec votre mère, avec votre père. Oui, parce que eux ils avaient réussi. Hein,
oui.
L'informaticien était médaillé, la pharmacienne était vraiment une vraie travailleuse acharnée.
Ouais, ouais. C'est un peu le problème des gens qui se sont, enfin, c'est le problème des gens. C'est le problème des personnes qui se sont débrouillées d'elles-mêmes et qui ont créé leur propre mythologie. C'est-à-dire que ils ont tendance après à forcer les autres à faire de même. C'est-à-dire, bon, moi j'ai réussi comme ça, ben toi aussi t'as intérêt à réussir comme ça. Donc c'est une façon de ne pas laisser de liberté à l'autre pour trouver ses propres outils. Donc je pense qu'on peut être aussi très cruel en partant de rien et en réussissant tout, quoi.
Et à 18 ans, vous quittez la maison?
Vers 18-19 ans. En fait, j'ai passé deux bacs, je crois. Enfin, non, c'est vrai.
Vous avez loupé.
Oui, enfin, j'ai loupé deux bacs. Enfin, je les ai passés aussi. Ils sont passés comme ça. Mais, et puis, non, mais j'ai rencontré, j'ai pendant deux ans, erré un peu dans le 18e arrondissement, dans un petit appartement et dans les rues, en achetant des livres que je ne comprenais absolument pas, mais que j'avais dans les poches, et je pensais que c'était des alliés, encore une fois. Je lisais Antonin Artaud, parfois des livres de sociologie, un peu de tout. Je savais que ça me faisait du bien.
Mais pourquoi les livres, Malik Zidi?
Parce que c'est comme une barricade, les livres. Si vous les empilez, vous verrez que ça peut vous protéger, même physiquement.
Ils étaient là, présents dans votre enfance, les livres?
Non.
Non.
Non, il y avait l'encyclopédie universaliste, comme on a tous eu à une époque, et puis le dictionnaire qui nous était offert, et puis un livre fondamental qu'on m'a offert quand j'avais 10 ans, un livre de contes scandinaves, et j'ai reçu le prix de camaraderie à l'école primaire, et j'ai toujours ce livre-là qui m'a vraiment marqué, quoi. Le prix de camaraderie décerné à Malik Zidi, à tout ça écrit à l'encre à l'encre de Chine, et je suis tombé peut-être dans cette histoire de littérature grâce à ce livre.
Et ces livres que vous lisez une fois que vous êtes à Paris, seul, à l'âge de 18 ans, Malik Zidi, ne sont pas du tout des références qui renvoient à votre scolarité. Ce ne sont pas du tout les auteurs qu'on vous a suggéré de lire quand vous étiez au lycée.
Non.
Non.
Non, non, à part bien sûr Les Fleurs du Mal, hein, qui est très marquant, mais non, je suis allé ailleurs, et puis justement, je lisais vraiment des livres assez précis, et même des livres politiques, je lisais beaucoup Édouard Saïd, je lisais Bourdieu, enfin des livres de sociologues.
Là, mais moi, qui vous les conseillez, ces livres?
Mais personne, mais en fait, plus on tire un tiroir, enfin, c'est des questions de tiroir, il y a des livres qui se parlent entre eux. Moi, mes plus grandes joies, c'est que quand je vois une préface d'un sur un livre et que le type qui a écrit la préface, bah, c'est en fait le livre que j'ai lu il y a 2 semaines avant et tout rebondit.
Vous les trouviez où, les livres?
Dans des librairies, un peu partout. D'ailleurs, il y avait une librairie en face de la pharmacie de ma mère quand j'avais 10 ans, 12 ans, et là, c'était les fameux livres dont vous êtes le héros, et ils vendaient des petites figurines avec, en métal, là, et je volais les figurines. D'ailleurs, elle existe toujours, cette librairie, hein, excusez-moi pour les vols, ça s'appelle la Griffe Noire à Saint-Maur des Fossés, et je volais ces figurines. Bon, les livres, je les achetais, et ça, c'est un peu aussi, pour moi, la naissance ma rencontre avec la littérature, c'est être soi-même le héros du livre, enfin, c'est incroyable. Ça m'a vraiment marqué, quoi.
Et le cinéma, le théâtre, c'est venu avec le plaisir du texte ou c'est venu par hasard?
Ma première copine était dans une cour de théâtre et un soir, elle m'a demandé de lui donner la réplique. Je lui ai donné la réplique et je suis resté bloqué sur ce livre. C'est un gros bouquin de Feydeau et j'ai lu toutes les pièces en riant. Elle est partie se coucher et puis le lendemain, j'ai dit je vais faire ça. Je vais devenir comédien maintenant.
Et c'est parti.
Puis voilà, quoi. Ouais.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et aujourd'hui, vous avez quelle relation avec la littérature, Malik Zidi? Vous continuez à lire?
J'ai un amour absolu.
Ou
j'ai...
à relire tous les livres qui vous ont marqué quand vous aviez 20 ans?
C'est vraiment, encore une fois, je les considère comme des amis ou des futurs amis, des alliés en tout cas. Et donc, ma table de chevet, j'ai une dizaine de bouquins que je prends, que je veux retrouver, que je veux peut-être même revoir, recaresser.
Et ils s'appellent comment?
Pardon?
Ces amis que vous gardez près de...
Il y en a beaucoup, mais il y a l'âge d'homme de Michel Léris, il y a le sillon de Valérie Manteau, je lis beaucoup de poésie aussi, Mahmoud Darwish, Desnos, Sandra Ars, et puis j'aime bien aussi les revues littéraires. Il y en a des très très belles comme Apulée de Hubert Haddad que j'adore, qui sont je trouve que c'est des recueils de savoir formidables. Et j'aime aussi énormément, enfin j'aime plein de choses.
C'est ce que vous cherchez dans la littérature, le savoir?
Ben alors c'est peut-être le fait que je n'ai pas
réussi des études, voilà.
Hein, donc du coup je me charge autrement et puis ça me protège aussi. Et j'aime le roman graphique aussi, comme on dit. Et Frédéric Pajac, Le Manifeste Incertain, il y a 8 volumes ou 9 volumes, et ça, c'est des œuvres d'art à chaque fois.
Qu'est-ce qui a été le plus dur quand vous avez écrit ce livre? C'est de pouvoir raconter tout ce que vous avez subi quand vous étiez enfant, adolescent, Malik Zidi, ou c'est de trouver un style, un souffle littéraire?
Non, alors le style, c'est la forme qui remonte. Alors comment dire? Ça n'a pas été ce qui a été difficile, c'est de me dire que il fallait absolument que je tienne et que ça ne soit pas une plainte. Moi, j'ai pas du tout voulu écrire une plainte ou c'est pas un dossier pour un commissariat. C'est un livre. Alors, et puis je me suis dit que c'était destiné aux autres. Donc j'ai voulu garder la voix de cet enfant. Effectivement, j'ai écrit souvent ce livre dans des cafés. Je suis même parti à Montréal 2 mois à l'écrire en plein hiver dans un café bien chaud avec -25 dehors. Ça m'a aidé à me concentrer. J'ai eu quelques vertiges parce que la littérature, enfin l'écriture, c'est un j'aime pas dire une aventure, mais je le dis, une aventure incroyable d'écrire, que d'écrire. J'ai eu des... Voilà, c'est une sorte de catharsis et aussi c'est une volonté de redéfinir qui nous sommes.
Et dans ce roman qui est tout à la fois un roman initiatique, mais aussi un vrai récit autobiographique, vous avez décidé d'une construction très simple et très efficace. Trois chapitres, croire, vivre, partir. Ça, vous l'aviez en tête avant de vous
absolument
lancer dans l'écriture, oui?
Non, pas absolument du tout. Pas du tout.
Alors, comment c'est venu? Mais en tâtonnant, en cherchant?
Non, c'est venu comme ça instinctivement. C'est venu comme ça. Je me suis dit, il faut trois grands verbes, trois verbes forts. Parce que j'ai appris aussi que, oui, on pourrait le définir comme un roman initiatique. Donc, c'est quand même l'évolution d'un enfant. Croire, c'est croire en sa propre mythologie. Créer ses alliés, encore une fois, ses amis imaginaires. Vivre, c'est faire avec eux, hein, c'est faire avec la vie, et puis aussi ce qu'on a créé dans sa propre enfance. Et puis après s'en détacher, partir, c'est en quelque sorte rentrer dans le conscient. Voilà, le livre, c'est, je pense, comme l'histoire même de la vie, de passer de l'inconscient au conscient.
Premier roman, L'ombre du soir, Malik Zidi, vous donne envie de continuer à écrire, vous qui êtes comédien pour le cinéma, pour la télévision, et peintre à vos heures perdues, que j'ai appris.
Ouais, j'ai beaucoup d'heures perdues, donc je fais plein de choses différentes dans mes heures perdues.
Mais pourquoi vous dites ça? Vous tournez de moins en moins?
Non, c'est pas ça, c'est que j'aime l'histoire des heures perdues, c'est que c'est dans ces moments-là où on est les plus créatifs, et même j'avais entendu un écrivain dire ça, je sais plus qui c'était même peut-être Bec Bédé qui disait, mais vous pensez quoi quand on marche dans la rue et quand on s'assoit sur un banc? On travaille. Et c'est vrai, effectivement. Moi, je suis très poreux, enfin, comme plein d'artistes, et j'essaie de capter les choses et d'en faire un objet après, qu'il soit littéraire ou une peinture, mais j'ai besoin de faire ça.
Qu'est-ce que vous peignez, Malik Zidi?
Je peins plein de choses bien différentes, mais j'aime.
Et vous montrez ça ou?
Ça va arriver.
Ça
va arriver. Et je veux revenir aussi à la phrase de remplacer une angoisse par une autre. Voilà, c'est ce que m'a proposé mon éditeur Stéphane Carrière, parce qu'il y a un moment avant de sortir.
En parlant de la peinture ou du prochain roman?
Le prochain roman. Non, c'était juste avant la sortie de mon premier roman. Il y a un moment donné où vous pouvez plus rien faire. Vous avez fait les corrections, vous avez tout fait, tout noté, et là vous attendez quoi, la signature qui s'est passée il y a pas longtemps. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ça arrive, ça nous est tous arrivé. Il faut écrire. Remplacer une angoisse par une autre, écrire, continuer. Et puis, de toute façon, là, j'ai vraiment envie.
Et quitter Paris pour Le Havre, c'est pour avoir du recul, comme on dit souvent?
Non, c'est encore un instant. C'est que je suis allé faire là-bas un festival qui s'appelle Le Goût des Autres il y a un
oui,
an. Et je
festival.
Suis allé faire un super festival. Je suis allé faire une lecture. Enfin, j'ai fait la clôture du festival avec le groupe Limousine. Et on a lu La Guerre des Mondes. Et au lieu de rester 2 jours au Havre, je suis resté 3 jours, 4 jours, 5 jours. J'ai repoussé mon billet à chaque fois.
Qu'est-ce que vous a plu dans cette ville?
Tout. L'architecture, la mer, la lumière, le fait que ce soit une ville qui a eu 1000 renaissances, enfin qui a été détruite plusieurs fois. Les gens, le côté PMU aussi que j'aime bien, que je retrouve plus trop à Paris. Ça se perd. Donc moi j'aime bien aussi les petits troquets. Et puis l'histoire de la ville qui est fascinante, qui est vraiment fascinante. Tout ça à 2 heures de Paris, donc c'est Brooklyn.
L'ombre du soir de Malik Zidi, édité chez Anne Carrière. Merci beaucoup d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci infiniment. Merci beaucoup.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
À suivre les informations, le journal des idées, les enjeux internationaux. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture. À demain.
France Culture,
l'esprit d'ouverture.
Le jeudi 12 mars à 20h à l'auditorium de Radio France, Martina Batic entraîne le chœur de Radio France dans les paysages animés de la musique tchèque. Dvorak, Martinou et Jana Tchèk jouent les guides. L'orgue et la harpe apportent leurs couleurs. En seconde partie, Szymanowski nous fait glisser vers la Pologne. Une invitation au voyage. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La justice britannique examine la demande d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks y risque jusqu'à 175 ans de prison, vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal aussi, présentation d'un autre procès, celui du couple Fillon sur les soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon. Cela avait conduit à la chute du candidat de la droite à la présidentielle il y a 3 ans. Et puis Donald Trump est en Inde en ce moment, accueilli comme un roi par le Premier ministre Narendra Modi. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Le procès de Julian Assange débute donc aujourd'hui. Le fondateur de Wikileaks, toujours détenu à Londres, risque 175 ans de prison aux États-Unis. Et la justice britannique doit décider à partir d'aujourd'hui s'il est ou non légal de l'extrader. Cela commence donc ce lundi, Antoine Géniaud.
C'est la première fois depuis 10 mois que Julian Assange va sortir de la prison de Belmarsh. Et c'est un argument que vont utiliser ses avocats. Placé à l'isolement et en détention préventive, le fondateur de Wikileaks n'a pas eu de véritable possibilité de préparer son procès, explique Joseph Farrell, représentant de l'organisation à Londres.
D'abord, il n'est pas bien psychologiquement et physiquement. Et il n'a eu qu'un accès limité à ses avocats. Pendant longtemps, il n'a pas eu accès à un ordinateur. Et puis, est-ce que vous pouvez vraiment vous préparer à l'idée de passer 175 ans en prison?
175 ans de prison, c'est la peine maximum que risque Julian Assange s'il est extradé vers les États-Unis, visé par 18 chefs d'accusation pour avoir révélé en 2010 et 2011 des informations classées secret défense, espionnage aux yeux de l'administration américaine, simple travail de journaliste pour le rédacteur en chef de Wikileaks, Christine Raffenson.
L'atmosphère autour de Julian est tellement toxique dans ce pays que je suis inquiet. Mais il faut qu'on soit optimiste et qu'on se batte à cause de l'importance de ce procès, pas seulement pour Julian, mais pour le journalisme en général, parce que ça va créer un précédent.
L'audience va durer jusqu'à la fin de la semaine. Il y aura ensuite une suspension de 3 mois, d'autres témoignages et une décision de justice probablement à l'automne.
Là, le procès doit durer un peu moins de 3 semaines. Au tribunal de Paris aujourd'hui débute le procès du couple Fillon. Comparaîtront François Fillon, sa femme Pénélope Fillon et l'ancien suppléant Marc Joulot. Il y a 3 ans, l'affaire des soupçons d'emploi fictif avait pulvérisé la campagne présidentielle du candidat Les Républicains. Retour ce matin sur la spectaculaire chute de François Fillon avec Antoine Marette.
François Fillon semblait avoir un boulevard devant lui. L'outsider de la primaire de droite était le favori de cette présidentielle. Jusqu'à cet article du Canard enchaîné le 25 janvier 2017, 3 mois avant le premier tour, l'hebdomadaire satirique révèle que Pénélope Fillon a été employée comme assistante parlementaire de son mari et comme conseillère littéraire à la revue des Deux Mondes, tout en mettant en doute la réalité du travail accompli. C'est le début d'une longue chute pour le candidat de la droite. Longue, car François Fillon résiste. Le lendemain, aux 20h de TF1, il réplique avec cette phrase devenue culte.
Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen.
Le dimanche suivant, à la Villette, devant 15 000 militants, il met en scène son couple et il durcit le ton.
Je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup.
Mais semaine après semaine, la liste des articles mettant en cause François Fillon s'allonge et les intentions de vote en sa faveur accusent une forte baisse. Le 1er mars, il annonce sa mise en examen, mais il maintient sa candidature, malgré les doutes de moins en moins discrets dans son camp. 4 jours plus tard, lors d'un meeting au Trocadéro, il s'obstine.
Il pense que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls?
François Fillon ira jusqu'au bout. Malgré sa mise en examen, il finit la course en 3e position, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la droite parlementaire est absente du second tour de la présidentielle.
L'Assemblée nationale a ajouté hier quelques objectifs symboliques à la réforme des retraites. La garantie d'un nouveau régime, d'un niveau de vie digne pour les retraités notamment. Il s'inscrit dans l'article 1, article que les députés sont toujours en train d'examiner. La garantie donc d'un niveau de vie digne. Discussion au ralenti à l'Assemblée et vif débat encore en fin de journée hier autour de l'étude d'impact accompagnant cette réforme. Autour aussi d'un possible recours au 49.3 pour faire passer le texte. La situation épidémique n'a pas évolué en France face au coronavirus, mais 70 hôpitaux supplémentaires vont être activés pour faire face à une éventuelle propagation de ce virus. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, souhaite ainsi qu'au moins un établissement par département en métropole soit prêt à accueillir d'éventuels malades. Tout cela en France, alors qu'en Chine, le bilan dépasse désormais les 2590 morts et que le président Xi Jinping reconnaissait hier des lacunes dans la réponse à l'épidémie. La Corée du Sud, plus important foyer de l'épidémie en dehors de la Chine, indique par ailleurs ce matin 161 nouvelles contaminations sur son sol, un bilan de 7 morts. 3 morts également en Italie, où 11 villes du nord du pays sont mises en quarantaine depuis ce week-end. Nous irons d'ailleurs en Italie, près de Milan, dans le journal de 7 heures. Avant cela, à 6h35 sur France Culture, allons en Inde où arrive ce matin Donald Trump pour une visite d'État de 2 jours. Le président américain la commence dans la région du Gujarat, dans le nord-ouest de l'Inde. Un État qui a été dirigé par le premier ministre indien Narendra Modi pendant 13 ans. Ce dernier prépare donc une réception exceptionnelle ce matin. Bain de foule, parade et spectacle dans un stade flambant neuf. Sébastien Farcy.
La ville d'Ahmedabad accueille le président américain avec les honneurs d'un Maharaja. 3000 artistes présentent un spectacle dans le plus grand stade de cricket du monde, inauguré pour l'occasion devant 110 000 personnes. Avant cela, une parade de 28 gigantesques tableaux sera présentée sur plusieurs kilomètres, réplique du spectacle de la fête nationale indienne. Narendra Modi adore en fait ces événements hors du commun, comme l'explique Nilanjan Mukhopadhyay, biographe du premier ministre.
Monsieur Modi est un fantastique organisateur d'événements grandioses. Il l'a fait dernièrement à Houston et plutôt au Madison Square Garden de New York ainsi qu'au stade de Wembley à Londres. Il le fait encore plus avec le président américain car les Indiens admirent les Américains et Monsieur Modi, en se montrant proche de lui, veut apparaître comme celui qui rend sa fierté au peuple indien. Monsieur Modi pense que l'excitation provoquée par ces spectacles va l'aider à résoudre les problèmes non réglés. Or, certains pourraient plutôt se demander si c'est raisonnable pour une économie en stagnation de dépenser autant d'argent dans la venue d'un dirigeant étranger.
Ces festivités devraient en effet coûter plusieurs millions d'euros, sans compter le fait que des centaines d'habitants des bidonvilles des bords de route ont été expulsés du jour au lendemain pour ne pas gêner la perspective de Donald Trump. Tout cela donc pour une visite de 3 heures du président américain dans cette région du Gujarat.
Une visite et une rencontre donc entre deux dirigeants protectionnistes. Cela ne devrait pas déboucher sur un accord commercial entre Washington et New Delhi. L'armée israélienne a revendiqué cette nuit une série de frappes aériennes contre des positions du djihad islamique en Syrie, près de Damas. Une réponse à un barrage de roquettes tiré un peu plus tôt par ce groupe islamiste armé depuis Gaza. Cela avait entraîné hier la fermeture d'écoles dans le sud d'Israël. La principale session annuelle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, s'ouvre aujourd'hui à Genève. Cette instance a pour mission, rappelons-le, de protéger et de promouvoir des droits humains dans le monde entier. Ces droits, pourtant, n'ont jamais été aussi malmenés. Et l'ONU semble même avoir abandonné ce combat, Franck Madvon.
Aujourd'hui, dit un diplomate, il n'y a plus de honte. Le mépris des droits de l'homme est devenu un sport mondial. Et l'ONU ne fournit plus aucun effort pour les défendre. Les ONG dénoncent la passivité du secrétaire général Antonio Guterres. Elles plaçaient en lui beaucoup d'espoir. L'ancien premier ministre portugais allait se battre pour les valeurs européennes, aucun doute. Mais non, pas un mot, par exemple, pour dénoncer la répression des musulmans ouïghours. Pourquoi ? Parce que Pékin est trop sensible sur la question. Et la Chine est désormais omniprésente à l'ONU. Elle y envoie ses meilleurs éléments, place ses hommes au poste clé et comble le vide laissé par les États-Unis. L'administration Trump ignore le multilatéralisme et a même claqué la porte du Conseil des droits de l'homme. La France, elle, est bien seule. Elle s'appuie sur ses alliés traditionnels, l'Allemagne, le Canada. Jean-Yves Le Drian se rendra à Genève aujourd'hui. Il y défendra notamment la candidature de la France au Conseil. Mais les droits de l'homme ne sont pas sa priorité. Et comment être crédible quand des pays montrent Paris du doigt et se font un plaisir de condamner les des violences policières en France.
C'était Franck Madvon pour France Culture. Le temps connaîtra peu de changements ce lundi en France métropolitaine, avec de la grisaille sur le nord, des pluies même près des frontières belges et du soleil sur le sud. Côté température, comptez ce matin 8 degrés à Strasbourg et à Bordeaux, 10 à Lille et Lyon, 12 degrés à Paris et 15 degrés dans la matinée à Marseille. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
À 6h40 sur France Culture, vous nous emmenez ce matin en Algérie pour votre journal des idées. Une foule considérable a envahi vendredi dernier les rues de la capitale et de nombreuses villes du pays. Cela marquait l'anniversaire du mouvement de contestation.
Oui, je cite Clara, « En engageant de manière aussi forte la deuxième année de la révolution du 22 février, ce 53e vendredi est un moment politique que le pouvoir gagnerait à analyser en profondeur », soulignait samedi l'éditorialiste du quotidien francophone Liberté. Et celui du site d'information Algérie Echo, relayé par Courrier International, estime que si le système politique contrôlé par l'armée n'est pas tombé un an après le début du mouvement, les victoires des manifestants sont nombreuses, à commencer par la chute de l'ancien président et de son clan, ainsi que celle des oligarques les plus toxiques. Pratiquement, je cite, tous les hommes d'affaires qui avaient défrayé la chronique par leur malversation sont aujourd'hui sous les verrous ou dans le collimateur de la justice. Mais parmi les acquis les plus positifs du Hirak, le mouvement, Nordine Grimm signale la mise en évidence que le haut commandement militaire était le réel détenteur du pouvoir politique en Algérie. Beaucoup d'Algériens le savaient déjà, mais le spectacle du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, décédé le 23 décembre 2019, donnant directement des ordres au chef de l'état par intérim, Abdelkader Ben Salah, était de nature à confirmer cette brutale réalité. Le journaliste insiste également sur le vaste mouvement de fraternisation entre les populations des différentes régions du pays et sur l'irruption massive des femmes dans l'espace public. On va dire qu'on en est à 40% de victoire, estime un manifestant de Béjaïa, capitale de la petite Kabylie, un bastion du Hirak. Comme le rappelle Majid Zerouki dans Le Monde, une grève générale a paralysé la ville pendant la semaine de l'élection présidentielle en décembre 2019. Et selon les chiffres officiels, seuls 0,12% du demi-million d'inscrits que compte la Vilaya ont participé au vote. Khaled Zirem, l'un des animateurs du café littéraire de Béjaïa, un espace de débat où se rencontrent public et auteurs, ajoute qu'en une année, la rue algérienne a fait plus que ce que le pays n'a pas pu réaliser en 57 ans d'indépendance. Un autre acquis du mouvement, et non des moindres, vient de l'intérêt qu'il a suscité auprès de nombreux jeunes chercheurs algériens en sociologie, en histoire ou en linguistique, d'où l'invention du néologisme irakologie, dû à Lazari Riani, professeur de linguistique et de philosophie du langage au département arabe de l'université d'Alger 2. Comme le rappelle Frédéric Bobin sur le site du quotidien Le Monde.fr, le néologisme a fait son apparition lors des rencontres regards croisés sur le mouvement du 22 février, fin juin à Alger 2, sous les auspices de la linguiste Kaoula Taleb Ibrahimi. Un événement qui s'inscrit dans une floraison d'initiatives similaires à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou ou au centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran. Des réseaux de chercheurs se structurent en Algérie ou dans la diaspora, s'efforçant pour commencer de répondre à l'urgence de conservation des archives d'une histoire en mouvement, à l'instar de ce qui avait été entrepris en Tunisie avec le printemps de 2011. Pour Abderrahman Moussaoui, professeur d'anthropologie à l'université de Lyon 2, il y a une précipitation légitime pour corriger quelque chose, faire mémoire pour compenser le blanc des années 1990, celui de la décennie noire, cette guerre entre l'armée et les maquis djihadistes qui a fait entre 100 000 et 200 000 morts civiles. Dans l'ouvrage collectif publié à la Fabrique sous le titre « Irak en Algérie », Salima Mella analyse le rôle majeur du traumatisme de la sale guerre contre les civils, qu'une loi de réconciliation nationale a tenté d'effacer de la mémoire collective en 2006. 13 ans plus tard, aucun procès équitable ne s'est déroulé en Algérie pour établir les responsabilités des crimes perpétrés par des agents de l'État ou par des membres de groupes armés se réclamant de l'islam. L'un des contributeurs à cet ouvrage collectif, François Gèze, insiste sur le rôle déterminant de ce passé qui ne passe pas dans les pages idées de Libération et qui montre que les vérités sur le fonctionnement d'un régime d'oppression particulièrement pervers, y compris dans son instrumentalisation de la violence islamiste, avaient été comprises de longue date dans les couches populaires. Il en veut pour preuve l'un des slogans du Irak, DRS, service de renseignement dissous en 2015, égale GIA, groupe islamique armé, témoignant de la conviction que les GIA étaient rapidement devenus, du fait de leur infiltration, des groupes islamiques de l'armée. Quant à l'avenir du mouvement, alors qu'aucun leader ne se détache pour incarner une alternance politique, le membre François Gèze, qui est aussi membre d'Algeria Watch, l'ONG de défense des droits humains, estime que c'est aussi sa force, car les leaders seraient immédiatement éliminés ou retournés par la police politique. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la place de la PAC, la politique agricole commune, dans le budget européen qui est en débat à Bruxelles.
Oui, entre les États qui voudraient voir réduire l'enveloppe accordée au monde paysan, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, et ceux pour qui il n'en est pas question, notamment la France qui reçoit chaque année plus de 9 milliards d'euros au titre de la PAC. Mais avant de se demander combien l'Europe doit mettre sur la table au titre des subventions agricoles, il faut se demander d'abord si ces aides sont efficaces. C'est aussi l'objet de la consultation publique que le gouvernement a lancée hier au deuxième jour du Salon de l'Agriculture, et dans un long article qui vient de paraître dans la revue annuelle Le Déméter, proche de l'IRIS, eh bien, un think tank indépendant Agriculture Stratégie explique que l'Europe fait fausse route depuis maintenant plus de 20 ans, qu'elle met en difficulté et ses propres agriculteurs et ceux des autres continents, car c'est aussi elle, l'Europe, qui a édicté les règles agricoles à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Bonjour Frédéric Courleux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur des études d'Agriculture Stratégie, qui est ce think tank indépendant qui travaille sur les questions agricoles. Si on regarde le Conseil d'orientation, ce sont des universitaires, des agriculteurs et quelques politiques de tous bords. Frédéric Courleux, pour commencer sur ces débats, les débats actuels sur la PAC qui se concentrent sur le montant de l'enveloppe et sur la répartition de cette enveloppe entre États et agriculteurs, en quoi cette manière de raisonner est-elle unique en son genre, propre à l'Europe ?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a réduit la PAC à une distribution d'enveloppe, une distribution entre les États et une distribution entre les agriculteurs. On sait 7 ans à l'avance combien on va consommer. Donc très concrètement, on est dans une logique de consommation budgétaire et c'est difficile de parler d'efficacité des politiques publiques dans ces conditions. La conséquence, c'est qu'effectivement la PAC est inefficace aujourd'hui face aux crises. On donne des subventions aux agriculteurs, que les prix soient hauts ou que les prix soient bas de la même manière. Et une efficacité de la PAC pour la transition agroécologique, parce qu'on donne des subventions aux agriculteurs, peu importe leur mode de production.
Voilà, c'est le principe des aides découplées. Les subventions sont calculées sur ce principe-là. Le découplage, elles dépendent ni de la quantité produite, ni du niveau des prix. Lesquels prix sont d'ailleurs la plupart du temps trop bas. On est quand même plus souvent dans une situation de dumping des prix agricoles plutôt que de prix trop haut.
C'est ça. Dans la théorie économique, on voudrait avoir des prix qui correspondent aux coûts de production marginaux, donc les coûts de production des producteurs les moins compétitifs, mais nécessaire pour satisfaire la demande. Dans la réalité, on est avec des prix internationaux qui vont coller aux coûts de production des producteurs les plus compétitifs. L'exemple dans le lait, c'est la Nouvelle-Zélande. Elle produit seulement 5% de la production mondiale. Pourtant, c'est elle qui donne le la sur les marchés internationaux. Forcément, les autres producteurs légèrement moins compétitifs ne peuvent pas suivre s'ils n'ont pas des politiques adaptées pour faire face à ces prix de dumping.
Alors, il faut comprendre et expliquer pourquoi l'Union européenne a fait ce choix. C'est de l'histoire récente. L'Union européenne, elle reste fidèle fidèle aujourd'hui à des règles établies dans les années 90 par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, règles dont l'Union européenne est à l'origine avec les États-Unis. Ce serait un petit peu long à rappeler, mais voilà, c'était une histoire, une façon de régler un différend commercial qui avait lieu entre États-Unis et Union européenne à l'époque. Les États-Unis reprochaient à l'Union européenne de subventionner les exportations. Il a fallu trouver un accord. Ils se sont entendus sur ce découplage et ce sont des règles qui reposent sur l'efficience des marchés. C'est le libre, le capitalisme.
Et l'autorégulation des marchés. On s'est dit à cette époque-là, il suffit de mettre en place une discipline pour éviter les stratégies non coopératives, donc notamment les subventions à l'exportation. Et grâce à ça, on va limiter les distorsions. On permettra comme ça aux marchés de revenir à leur niveau d'équilibre et au prix de remonter. En étant dans une période de surproduction, il fallait donc trouver ce type de solution. Le problème, c'est que les marchés agricoles sont structurellement instables. Et au final, on se retrouve avec une situation où, hormis les périodes de crise de sécurité alimentaire, telles que celles qu'on a connues 2007-2010, avec le printemps arabe notamment et les émeutes de la faim, la plupart du temps, le reste du temps, on est avec des prix qui sont bien en dessous des coûts de production de la plupart des producteurs au niveau de la planète.
Et donc les agriculteurs européens, c'est à eux de se prémunir contre ces prix bas.
C'est ça.
C'est pas l'Europe qui règle les aides en fonction de ces prix bas.
C'est ça. Contrairement aux autres pays, par exemple les États-Unis. Aux États-Unis, les aides sont variables et varient en fonction des prix.
Et ça, c'est nouveau, hein, parce qu'encore une fois, les États-Unis avaient fixé ces règles au départ, mais ils en sont revenus en 2002, quoi, quelque chose comme
ça. C'est ça, c'est ça. En 2002, ils ont remis des aides qu'on appelle donc contracycliques, donc qui varient en fonction des prix. Ils ont gardé aussi un certain nombre de dispositifs de régulation. On est en pleine crise du sucre en Europe. Il y a toujours des quotas sucriers aux États-Unis. Donc ça s'appelle voilà des deficiency payments et c'est des outils bien plus efficaces que nos subventions de la PAC qui au final ne font qu'arroser du sable. Dès lors que on dérégule les marchés, c'est l'agroalimentaire et la distribution qui vont capter les subventions. Les subventions de la PAC ne finissent pas en fait dans les poches des agriculteurs.
Et vous écrivez la modernité de l'Europe agricole, c'est ça, c'est de s'en remettre aux cieux.
C'est ça. La principale perspective positive pour les agriculteurs dans pas mal de productions, c'est d'attendre un grave incident climatique chez un grand pays producteur. On se remet aux cieux et on se remet au sacrifice des plus faibles, des plus endettés, pour espérer que les survivants soient confortés après la crise. Donc c'est ça le Moyen-Âge de la politique agricole commune aujourd'hui. La terre est plate, les marchés agricoles sont autorégulateurs.
Entre parenthèses, ça partait peut-être d'une bonne intention, parce que verser des aides en fonction du niveau de production, on connaît aussi le problème, ça incite à produire plus pour recevoir plus d'aides et donc à être dans une situation de surproduction.
C'est ça, mais malgré tout, avec des systèmes contracycliques, on arrive à gérer ce problème-là, c'est pas du tout insoluble.
Alors Frédéric Courleux, est-ce qu'il est possible de réformer la PAC sans réformer d'abord ou en même temps l'Organisation mondiale du commerce, qui interdit par exemple le stockage public, c'est-à-dire le principe d'avoir un gouvernement qui gère son propre marché intérieur pour éviter que la production soit trop soumise aux aléas des prix mondiaux? C'est ce que font pas mal de pays aujourd'hui.
C'est la majorité des pays, notamment la Chine, l'Inde, régulent leur marché intérieur à des prix plus élevés que les marchés européens.
C'est-à-dire qu'ils se soustraient aux règles de l'OMC alors?
Tout à fait. Le prix du blé en Chine est deux fois supérieur au prix du blé en France aujourd'hui. À ce niveau de prix-là, nos agriculteurs n'auraient vraiment pas du tout de difficulté à se passer de certains produits phytosanitaires très décriés en ce moment. La question de la transition écologique et environnementale de l'agriculture, c'est bien une question de valeur. Donc vous avez effectivement parlé des stocks. Aujourd'hui, pour les règles de l'OMC, les stocks à vocation stabilisatrice, stocks publics stabilisateurs, sont interdits.
Alors que même des cabinets comme McKinsey, peu suspect de collectivisme, disent aujourd'hui qu'il faut faire du stockage public. Mais c'est un débat qui existe au sein de l'OMC.
L'Inde se bat et la figure de proue des pays en voie de développement sur ce sujet-là. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pouvoir de l'OMC est pas si important que ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir coercitif en propre. Tout dépend des pays qui vont attaquer la politique d'un autre pays. Et très concrètement, quand on voit que 50% des stocks mondiaux sont en Chine, que ce géant démographique est aussi un géant agricole où les prix agricoles sont les plus élevés au monde, La Chine, c'est là où les prix agricoles sont les plus élevés au monde. Personne ne va aller s'amuser, aller se frotter aux Chinois.
Est-ce que si l'Europe ne tarde un peu à réformer ces règles-là, est-ce que c'est pas aussi parce que dans nos pays riches, la question des prix agricoles se fait moins sentir dans notre consommation de tous les jours? Le prix du blé dans une baguette, c'est quoi?
C'est 4 centimes.
C'est 4 centimes.
C'est 4 centimes. Donc même si le prix est double, c'est 1 dollar. C'est pas du tout le cas dans les pays en voie de développement. On n'est pas du tout sur la même logique.
Alors, les pays qui ne suivent pas ces règles, qui se soustraient aux règles de l'OMC, comment font-ils? Ils peuvent jouer sur la protection douanière, c'est le cas de la Chine, de l'Inde, des pays du Maghreb, du Proche-Orient. Quelles sont les autres solutions?
Les autres solutions, c'est de la maîtrise de l'offre et des systèmes de quotas qui existent encore, par exemple, au Canada sur le lait, qui existent sur le sucre, je l'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis. Après, des systèmes d'aide contracycliques qui sont considérés comme étant des aides transitoires au regard de l'OMC. Donc voilà, des aides qui varient en fonction des prix. Et puis aussi des stratégies de stimulation, d'écoulement des surplus, notamment via les biocarburants.
Alors Frédéric Courle, l'Europe qui aime pourtant à se présenter comme l'avocate du multilatéralisme, en fait ce que vous nous dites c'est qu'elle se satisfait de règles qui n'arrangent qu'elle, qui l'arrangent en tant qu'institution, on a bien compris, qui n'arrangent pas ses agriculteurs qui se prennent les prix bas en pleine figure. L'Europe, elle signe à tout va des accords bilatéraux et vous parlez de fuite en avant. Pourquoi une fuite en avant? Parce que c'est... On peut se dire que c'est une façon de régler le problème, des accords interétatiques.
Tout dépend de leur contenu. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une contradiction majeure. D'un côté, elle se veut le chantre du multilatéralisme. De l'autre, elle protège et elle défend, elle est la dernière à défendre, des règles agricoles de l'OMC qui sont incompatibles avec la sécurité mondiale.
La sécurité mondiale et l'environnement. Vous écrivez,
et aussi l'environnement.
Alors qu'elle se donne, enfin le budget européen se donne pour objectif d'être 100% vert d'ici 2050.
C'est ça, mais là en l'occurrence on est plus dans le greenwashing qu'autre chose. J'en veux pour preuve la dernière réforme de la PAC, on a essayé de verdir les aides découplées à l'hectare et ça n'a pas marché. C'est pas le bon type d'outil qu'il faut utiliser. Il faut davantage utiliser des approches contractuelles où on accompagne les agriculteurs dans la transition sur plusieurs années en ayant une réflexion globale sur l'évolution de leur système de production.
Est-ce que c'est une proposition que vous allez faire, vous, dans le cadre de cette consultation publique que le gouvernement a lancée hier, au deuxième jour du Salon de l'agriculture, où vous étiez d'ailleurs Frédéric Courlieu. Est-ce que vous allez l'aider à élaborer ce que Paris devra présenter à Bruxelles?
On va essayer effectivement d'être présent dans ce débat. Ces aides, très concrètement, agroécologiques existent déjà dans la PAC, mais elles sont soumises à une pression budgétaire importante. On parle de moins 26% de baisse sur le deuxième pilier de la PAC, là où on retrouve des outils les plus intelligents pour assurer la transition agroécologique de l'agriculture européenne.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Courlieu d'être venu nous en parler ce matin. Alors, je rappelle que votre article est à lire dans la revue Le Déméter, édité chaque année par le club du même nom, et aussi sur le site de votre think tank Agriculture Stratégique. Nous mettons en lien sur le site des enjeux internationaux. Bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Voir le monde au plus près, LSD, la série documentaire, Perrine Kervran.
Le 24 octobre 79, stupeur, le Vésuve entre en éruption et la catastrophe est telle que Pompéi est ensevelie. Il faudra attendre le 18e siècle pour que le site soit fouillé et qu'il devienne, pour toujours, un laboratoire d'archéologie à ciel ouvert qui nous raconte la vie d'une ville ordinaire.
Pompéi, la vie sous la cendre. LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr. L'histoire, autrement sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Il faut nourrir le peuple. Que la population mange à sa faim est une nécessité pour le pouvoir, sous toutes ses formes, royal ou républicain, municipal ou national. De la première graine aux revendications paysannes, de la culture céréalière à l'élevage bovin, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la bidoche.
Il faut nourrir le peuple. Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57, une nouvelle semaine commence et c'est matin que nous passons avec vous, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
C'est votre humeur du jour, Guillaume, face au coronavirus, est-il rationnel de paniquer?
C'est l'intéressante question que pose le philosophe Nassim Nicolas Taleb dans le magazine Le Point. Alors Taleb, c'est le papa du cygne noir, le cygne noir, je veux parler de l'oiseau, je vous explique le principe, Julie. Taleb affirme que les sociétés modernes sont exposées à des événements de probabilité faible, mais aux conséquences dévastatrices. L'exemple type, c'est le 11 septembre 2001. Un attentat de cette ampleur a peu de chances de se produire,
ou
mais
s'il
se produit,
C'est une catastrophe à tous les niveaux, humaine bien sûr, mais aussi géopolitique, économique, etc. Et pourquoi baptiser un événement à la probabilité faible, mais aux conséquences infinies, un signe noir ? Eh bien, tout simplement parce que pendant longtemps, les ornithologistes ont cru que tous les cygnes étaient blancs. Et ils en ont croisé un noir et cette découverte les a conduits à réviser leur vision de cette espèce animale. Mais là, en l'occurrence, le cygne noir, c'est un virus. Et pour Taleb, il est aujourd'hui absolument rationnel de paniquer. Le philosophe cite même en exemple Singapour. La cité-État est susceptible de décider de fermer ses frontières en 14 minutes, dit-il. Et c'est admirable parce que selon lui, seuls les paranoïaques en pareil cas survivent. D'où cette interrogation sur la rationalité de la panique. Si par rationalité on entend bonne raison de paniquer, alors oui, nous avons une bonne raison, donc ce virus nouveau, un virus mal connu, contre lequel on dispose de peu de traitements, oui, mais dans le même temps, cette panique entraîne des conséquences dévastatrices, sur le plan économique notamment, au point de se demander s'il n'y a pas surréaction et si la vraie catastrophe n'est pas causée par cette surréaction. Autrement dit, quelle est la rationalité de l'irrationalité ? Est-il raisonnable de paniquer ou la panique est-elle créée par notre comportement déraisonnable? Mais dans le même temps, si nous ne paniquons pas et si la situation devient paniquante, on nous reprochera bientôt d'avoir été déraisonnable au point d'avoir voulu rester raisonnable. C'est cela qui est compliqué avec la déraison, c'est que l'homme a toujours de bonnes raisons d'être déraisonnable.